très cordiale bienvenue à chacun, à chacune. Nous allons célébrer ce culte de Noël ensemble, dans des conditions un peu particulières, il faut le reconnaître, c'est pas tout simple pour nous tous et toutes, mais nous voulons le faire peut-être en nous décentrant un peu, pour nous recentrer sur la personne du Sauveur et Seigneur que nous voulons célébrer. Bienvenue à chacun, à chacune, pour ce culte. Les potes, nos enfants, ont un programme fait sur mesure. Pour eux à la chapelle, et pour en avoir eu un petit aperçu, je pense que ça vaudra la peine d'y donner suite autour de la table à midi. Voilà, pour faire un peu le bilan de cette belle matinée que les monos des potes ont préparée pour les enfants. J'ai un slide à vous montrer. C'est un des plus anciens documents dont l'histoire est connaissance. C'est une tablette d'argile qui provient de la plus ancienne des ruines de Babylone. Et cette tablette, traduite par beaucoup plus compétents que moi, dit ceci. Hélas, hélas, les temps ne sont plus ce qu'ils ont été. Hélas, hélas, les temps ne sont plus ce qu'ils ont été. Environ 4000 ans de datation. Je trouve assez bizarre, mais c'est ainsi. De génération en génération, à travers les siècles, l'être humain se montre persuadé que le présent ne vaut pas cher et que l'avenir sera une catastrophe. Hélas, hélas, les temps ne sont plus ce qu'ils ont été. J'ai déjà entendu dans ma propre famille la phrase suivante. Heureusement qu'il est mort avant d'avoir vu ce qui arrive. Le mot d'ordre de notre société, c'est le sauve qui peut, sauve qui peut. Notre monde est celui de la fuite qui peut se manifester de bien des manières et nous savons nous montrer très imaginatifs en matière de fuite. Notre monde est le monde de la fuite. Mais Dieu lui dit « Je viens, je viens ». Là où vous ne voulez pas rester, j'installe mon Fils, je l'incarne, je vous le donne. Et je mise sur cet avenir auquel vous ne croyez pas, auquel vous ne croyez plus. Cet avenir est ce présent déjà, je viens l'habiter. Noël nous sauve de la fuite. Il nous ramène au cœur de l'ouvrage et au cœur de Dieu. Il nous réinstalle dans ce que nous ne pensions plus aimer, plus désirer, plus espérer. Terre de décembre, terre de décembre. Comme tu seras neuve quand Dieu, comme à Bethléem, nous aura réappris à croire à demain et même à après-demain. Je vous invite à prier. Cher Seigneur, ensemble, nous nous présentons devant toi. Nous voulons te rendre un culte. Nous voulons t'honorer. Nous voulons nous souvenir qui tu es pour nous. Nous voulons célébrer. Puis nous venons les mains vides et peut-être le cœur un peu gercé. Tu sais de première main que les conditions sont âpres. Nous ne voulons pas nous en extraire, nous voulons composer avec, mais tourner les regards vers celui qui est maître de l'histoire, maître des circonstances, celui qui dit « Je suis Emmanuel, Dieu avec vous ». Alors nous te prions de nous aider à entrer dans ce culte, à te célébrer en esprit et en vérité. Et nous voulons le faire en communion pleine et entière avec nos enfants, les potes à côté. On te prie de faire reposer ta grâce et ta paix sur eux. Et nous le faisons en communion avec ton Église que tu bâtis depuis 2000 ans sur la surface de la terre, en tant de lieux, tant de conditions différentes. Mais nous sommes rassemblés en ton nom avec des millions de frères et sœurs. Nous te remettons particulièrement ceux qui se réunissent aujourd'hui alors que la persécution fait rage. Sois à leur côté, manifeste ta présence, protège-les, fais-leur du bien, comme tu voudras bien nous en faire à nous aussi. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. J'invite l'équipe louange du jour à nous rejoindre. Ils vont nous entraîner dans un temps de louange. Je vous retrouve dans quelques instants.
Voilà, alors ce matin, pour... ce temps de louange, je vous propose une petite mise en situation. Pensez à un problème que vous avez. Imaginez ensuite qu'un prophète connu, reconnu, hein, ce prophète vous annonce « Ton problème sera résolu ». Mais le temps passe, vous ne voyez rien venir. Puis en plus, l'état du monde autour de vous n'est pas très engageant. Hein, Philippe nous l'a rappelé. Et bien, c'est dans cette situation que se trouvent les fidèles du peuple d'Israël, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Alors oui, le Seigneur a tenu ses promesses, le peuple est rentré d'exil. Oui, on a un grand Dieu. Mais face à l'adversité dans la vie courante, on est un peu tenté de l'oublier. Alors il y a bien un prophète, il s'appelle Malachie d'ailleurs. Et puis ça, il annonce au chapitre 3, verset 1, « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer un chemin. » Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Alors nous sommes dans une situation à la fois différente et similaire. Différente parce que le messager, on sait, il est venu, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, nous sommes aussi dans une situation similaire, parce que nous attendons le retour de Jésus-Christ. Et dans cette attente, ben, elle se vit dans un monde qui n'est peut-être pas meilleur que celui de l'époque. Hein. Alors, en tant que chrétien, comment vivre ce temps d'annonce, ce temps d'attente, pardon ? Ben, je crois qu'on peut s'en remettre à Dieu pour lui faire part de nos besoins, en sachant justement que c'est lui qui règne. Qui règne en maître de l'univers. Alors, n'est-ce pas ce que Jésus nous a enseigné dans un texte qui est bien connu et qu'on va chanter ? Le messager du Seigneur arrive, dit Malachie. Mais au verset suivant, il pose une question capitale. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Alors Malachie annonce aussi le jugement de l'Éternel. Jugement, il doit y avoir, car la situation est grave. Au chapitre 3, verset 5, il dit « Je viendrai au milieu de vous pour vous juger. » C'est le Seigneur qui déclare. « Je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser les personnes qui pratiquent la sorcellerie, qui commettent l'adultère, qui prononcent des faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, ou qui font du tort aux immigrés. Toutes les personnes qui ne tiennent aucun compte de moi. Toutes les personnes qui ne tiennent aucun compte de moi. » Très actuel, ces textes. Vous n'avez pas marre, vous, de toutes ces personnes qui ne tiennent pas compte de Dieu, qui se comportent comme si Dieu n'existait pas? Et quand on ne tient pas compte de Dieu, est-ce qu'on finit pas toujours par oppresser, d'une manière ou d'une autre, les autres? Alors que faire en attendant le messager? Que faire en attendant le retour de Jésus-Christ? On le voit, certains choisissent le mal, l'exploitation du prochain. Mais nous, en tant que communauté, est-ce qu'on suivra Jésus-Christ ou le monde? Alors chantons « Jésus, je te suivrai ».
Dans la joie, quand le soleil m'inonde sur le monde, où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai.
Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand le serviteur apparaîtra, quand il apparaîtra? Alors nous connaissons tous la réponse à cette question. Dans le fond, personne ne peut rester debout. Mais dans sa grâce, Dieu prépare le terrain de sa venue. Malachie l'annonce pour le peuple de son époque. Il dit « Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout le peuple d'Israël. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. » Alors le parallèle avec notre situation est saisissant. On peut reprendre ce verset, remplacer Moïse par Jésus-Christ. Les règles et les lois données sur le mont Horeb par le sermon sur la montagne. Le peuple d'Israël par les croyants de toutes les nations. Le prophète Élie qui prépare le jour du Seigneur par le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ. C'est ce Fils de Dieu qui réconcilie les enfants avec leur Père. Ce jour grand et redoutable, nous pouvons donc l'attendre, non plus avec peur, mais avec joie. Et c'est ce qu'évoque le chant que nous allons chanter maintenant, le roi dans sa splendeur.
Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, tous verront, oh Dieu, combien tu es grand.
Alors en Jésus-Christ, nous avons la pleine révélation de Dieu, rien moins que cela. C'est l'Esprit qui vient l'attester dans nos cœurs, c'est l'Esprit qui nous rappelle ce que Jésus a enseigné sur la montagne. Alors fort de cette révélation de Dieu en Jésus-Christ et de l'aide de l'Esprit, consacrons-nous tout entier au Seigneur par ce chant qui dit « Je te donne tout ». Suite à ce chant, nous aurons un petit moment de prière communautaire. Philippe passera le micro pour ceux qui veulent prier, de manière à ce que ceux qui sont en streaming puissent nous écouter aussi.
Seigneur, pour que nous puissions esquisser ces paroles, les fredonner. Toi, le premier, tu as tout donné. Et nous voulons très humblement te dire merci. Amen.
Mon cœur est dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Seigneur, toi qui es venu parmi nous, Nous nous réjouissons dans ta présence et nous t'acclamons. Tu es notre Sauveur, celui que Dieu, ton Père, nous a envoyé alors que nous étions dans notre obscurité, dans nos ténèbres. Merci Seigneur, parce que tu es lumière parmi nous, aujourd'hui et toute la vie. Amen.
Quelle phrase ! Je te donne tout. Oui, Seigneur, aide-nous à chacun de tout te donner lorsque nous sommes sur cette terre. Parce que toi, effectivement, tu nous as tout donné. Alors merci, Seigneur. Amen.
Mon cœur est à toi. Seigneur, je le dis sincèrement, mais je te demande pardon pour toutes les fois où je le reprends. Merci pour ton pardon, Seigneur, et rappelle-moi chaque fois que je le reprends pour que je te le donne vraiment, pour qu'il soit tout à toi. Et Seigneur, que ce soit pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.
Qui était le personnage le plus grand de l'Ancien Testament? Pardon? Direct! Tu me pètes mon truc, Anne. Ça va plus, là. Mais oui, mais t'as raison, c'est marqué dans la Bible. Mais moi, je m'attendais à d'autres réponses. Qui est... Anne, il faut l'inviter à tous les coups, ça marche, en fait. C'est... Qui était le personnage le plus grand de l'Ancien Testament? Oui, Jean-Baptiste. Puis souvent, quand j'y pense, pour moi, je ne pense pas à lui direct, mais je n'ai pas le niveau d'Anne. Hein. Moïse, David. Pardon? Abraham.
Goliath était très grand.
Goliath un peu costaud aussi, ouais. Que dire du prophète Élie? Et puis de son successeur, Élisée. Quand Jésus, à un moment donné, se retrouve avec eux d'une façon un peu miraculeuse, il faut le dire, lors de la transfiguration, Moïse et Élie résument la loi et les prophètes. Quand Jésus choisit de résumer l'Ancien Testament par un sketch,
si vous me passez l'expression, par une incarnation, par une épiphanie, eh ben, il prend avec lui Moïse et Élie, parce qu'ils représentent tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Mais Anne a raison, comme souvent. Il y a plus grand qu'eux. Il y a une personne qui est à la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelqu'un qui les surpasse tous, et c'est Jean-Baptiste. Je ne sais pas si nous faisons assez attention à lui, en fait. Dans les quatre évangiles, c'est Jean-Baptiste qui prépare l'arrivée de Jésus. Les premiers disciples de Jésus, avant d'être disciples de Jésus, étaient disciples de Jean-Baptiste. C'est comme si Jean-Baptiste se tenait à la porte de la Nouvelle Alliance, puis qu'il regarde par-dessus le seuil sans y entrer. Nous allons écouter ce que Jésus dit de Jean-Baptiste.
Un peu plus grand. Après le départ des disciples de Jean, Jésus se mit à parler de celui à la foule en disant : qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Mais les personnes qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare : voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'y a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents s'en emparent. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à Jean. Si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue est annoncée. Que celui qui a des oreilles entende. Amen.
Merci, Boris. Dans l'évangile de Luc, dans les récits de Noël, nous n'avons pas moins de 50 versets qui parlent de Jean-Baptiste. Sa naissance est annoncée avant celle de Jésus. Jean le Baptiste naît avant Jésus. Et comme dit, avant de parler de lui, la Bible parle de ses parents. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Si nous languissons après un retour à la normale, si nous trouvons que les temps sont âpres et incertains, si nous trouvons que le temps du plus ou moins confinement est long,
si les enfants trouvent que l'attente de Noël est trop longue, eh bien, pensons à ce couple qui devait lui aussi trouver le temps bien long et qui aurait certainement préféré ne pas confronter l'incertitude. Les parents de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Les parents de Jean-Baptiste. Le mari s'appelle Zacharie. Sa femme, Élisabeth. Et nous allons écouter une partie de leur histoire dans l'évangile de Luc, au premier chapitre, les versets 5 à 25. Et c'est Michaela qui va les lire avec nous.
Au temps où Hérode était roi de Judée, il avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous les deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth ne pouvait pas en avoir. Ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler de l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors, alors où on brûlait l'encens. Désolé. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à droite de l'autel, s'ouvrant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils et tu le nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand, un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il viendra comme messager avec l'Esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier le Père avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. Mais Zacharie dit à l'ange : Comment saurais-je que cela est vrai, car je suis vieux et ma femme est aussi âgée ? Et l'ange lui dit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles. Tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet, tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne peut pas leur parler. Et comprirent qu'il avait une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, sa femme devint enceinte et elle se tint cachée 5 mois. Elle disait : Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant tout le monde.
Zacharie et Élisabeth deviendront ainsi les parents
de Jean-Baptiste. Mais avant de devenir les parents. Avant, ils étaient jeunes. Avant, ils se sont mariés. Avant, ils ont voulu fonder une famille. Puis l'enfant ne venait pas. Mois après mois, année après année, toujours pas d'enfant. Et Élisabeth a fini par concevoir la honte. D'aucuns disaient qu'elle était punie de Dieu. Les autres femmes de son âge avaient des bambins plein les pattes. Et à chaque fois qu'on venait lui annoncer une naissance, Élisabeth, elle souriait de sa bouche, mais pas du cœur. Elle a dû trouver le temps long. Et pour son mari, Zacharie, ben je m'imagine que ce n'était guère mieux. Homme pieux, un prêtre même, il était de son devoir d'assurer une descendance, de perpétuer sa lignée. Et sa femme était stérile. Elle était donc punie de Dieu ? Ou lui-même serait-il puni de Dieu ? Certainement que sa famille, que ses amis se répandent d'un bon conseil de toutes sortes. D'abord, il faut prier. Puis après, il faut se purifier en jeûnant. Ce serait peut-être bien d'offrir un sacrifice coûteux à Dieu. Mais toujours rien. Comment faire pour assurer une descendance ? Sans doute qu'à cette époque-là, la polygamie ne se pratiquait plus. Mais le divorce, il était fréquent, il était facile. Voilà la solution. Voilà peut-être ce qu'on finit par souffler à l'oreille de Zacharie. Recommence une histoire avec quelqu'un d'autre qui te lavera de ta honte. Vous la comprenez, vous, la souffrance de Zacharie et Élisabeth ? Moi, j'en entends dire qu'il y avait forcément quelque chose qui clochait dans leur vie avec Dieu. Ben ouais, un péché, un manque de foi, un truc qui fait que t'as pas ce que tu veux. Le problème, c'est que la Bible dit autre chose. La Bible dit, chapitre 1, verset 6, qu'ils étaient justes aux yeux de Dieu et qu'ils observaient toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Donc, des justes qui souffrent. Des justes qui attendent, des justes qui espèrent. Peut-être dirions-nous que Dieu voulait leur apprendre quelque chose. Mais elle dure, la leçon. Elle dure vraiment trop longtemps. Ils étaient tous les deux justes aux yeux de Dieu. Donc, pas de divorce, pas de polygamie. Ils sont restés fidèles l'un à l'autre. Pas de relâchement dans leurs pratiques religieuses. Ils connaissent bien la Torah, la loi de Dieu, et ils la mettent en pratique. Et les voilà donc, verset 7, très âgés. Zacharie est âgé pour l'époque. Mais il a certainement un peu moins de 50 ans, puisqu'il officie toujours comme prêtre et que son office l'absorbe certainement. Élisabeth, elle est stérile et pas de vocation dans laquelle se perdre. C'est fini l'espoir, c'est fini l'attente. On ne se projette plus, l'enfant ne viendra pas et la vieillesse approche. Et avec elle, la solitude d'un couple sans enfants ni petits-enfants
Pas d'animation autour de la table les jours de fête. Une joie masquée. Il va falloir tenir fidèlement jusqu'au bout. Ce que Zacharie et Élisabeth ont vécu, c'est un peu ce que tout leur peuple est en train de vivre. Depuis des siècles, le peuple attend le retour du prophète Élie. Le prophète Malachie l'avait annoncé vers l'an 400 avant Jésus-Christ, nous l'avons lu tout à l'heure. Mais il n'y avait toujours pas de nouvel Élie à l'horizon. Le peuple attend donc encore plus ardemment la venue du roi dont Élie sera le précurseur. Un roi grand et glorieux, un roi qui viendra relever la dynastie de David qui est disparue depuis au moins 600 ans. Une seule promesse parlait d'un nouvel Élie, c'est celle de Malachie. Des dizaines de prophéties annonçaient un nouveau David. Et cela fait des siècles que le peuple attend. Et il attend avec d'autant plus d'angoisse que le pays a de nouveau perdu son indépendance. Le général romain Pompée avait envahi la Terre Sainte. Depuis 60 ans, c'est Rome qui fait et qui défait les rois des Juifs. C'est Rome qui fait la loi. Tout un peuple aspire à la liberté. Tout un peuple aspire à la venue du vrai roi, fils de David, nouveau David. Peut-être pas tout le peuple. Les pharisiens l'attendent. Ils voudraient que le peuple se purifie pour que le Messie vienne enfin. Les Esséniens l'attendent. Ils pensent que le Messie sera un des fils de la lumière, l'un des leurs. Mais les partisans du roi Hérode ne l'attendent pas. Les Sadducéens se font une raison, comme tous ceux qui admirent la brillante culture grecque, qui admirent l'efficacité romaine, ceux-là n'attendent rien. Mais les hommes et les femmes de foi attendent le Messie. Depuis toujours et pour toujours, l'espérance pour les hommes et les femmes de foi, c'est un moteur. On ne se contente pas de ce que l'on a. Et puis, d'une certaine manière, le monde d'alors attendait lui aussi celui qui devait venir. Inconsciemment, sans doute. Mais à un moment donné, les vieilles divinités de Grèce, les vieilles divinités de Rome, tout ça, c'est en perte de vitesse. Les gens cherchaient alors la vérité ailleurs. Et en particulier dans les nouvelles religions orientales, et en particulier dans l'étrange religion des Juifs. Rome était au sommet de sa gloire, mais Rome ne pouvait guère satisfaire les aspirations les plus profondes de l'âme humaine. Il devait y avoir autre chose que l'efficacité romaine. What else? Au cœur de la foi, depuis les origines du monde, il y a l'attente, l'espérance, une sorte d'insatisfaction chronique. Ce monde ne me donne pas ce que j'attends. Je ne peux pas me satisfaire de la médiocrité du monde présent. Ce n'est pas suffisant. Et nous alors ? Qu'est-ce que nous attendons ? Qu'est-ce qui nous creuse ? Qu'est-ce que nous avons attendu si maintenant peut-être tout espoir est éteint ? Est-ce que l'histoire de Noël peut nous aider ? Est-ce que l'histoire de Zacharie et Élisabeth peut nous aider ? Moi, je crois que oui. Ils sont dans l'attente, mais regardez, ils n'arrêtent pas de vivre. Le texte ne nous aurait pas dit qu'ils étaient justes devant Dieu s'ils avaient cessé de travailler, s'ils avaient cessé de prier, s'ils avaient cessé de méditer la parole de Dieu, s'ils avaient cessé de s'ouvrir aux autres, s'ils avaient cessé d'affronter le quotidien, s'ils avaient cessé d'attendre. Le texte ne nous dirait pas qu'ils étaient justes devant Dieu.
dans l'attente de ce bébé qui ne vient pas, ils vivent. Ils vivent. Et je crois que c'est là l'enjeu pour nous. Nous pourrions être tellement portés sur un événement futur que le présent s'en trouverait gâché. Alors en attendant le changement de poste, c'est légitime. En attendant peut-être le départ de ce collègue impossible à vivre. En attendant les lendemains qui chantent. En attendant l'assouplissement des mesures sanitaires. Il faut vivre. Il faut vivre. Et vivre aujourd'hui à la gloire de Dieu. Zacharie et Élisabeth continuent à vivre pour Dieu alors qu'ils n'attendent rien. Un certain nombre d'entre nous avons dû renoncer à des espoirs longtemps chéris. L'amour d'un conjoint ? La guérison d'un proche ? Des revenus plus importants ? La résolution d'un conflit ? Une vie d'église un peu plus satisfaisante ? Que sais-je ? Nous devons accepter de vivre dans un monde moins que parfait. Et au-delà de l'espoir, Zacharie et Élisabeth, ils restent fidèles, irréprochables. Le passé, ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu être, le passé ne les paralyse pas. Ils vivent leur aujourd'hui à la gloire de Dieu et ils m'encouragent. À le faire à mon tour. Puis ils nous font découvrir le côté surprenant des voies de Dieu. Bouleversante, inattendue, impossible à prévoir ou à programmer, l'ange leur annonce la venue de l'enfant. Vous savez, c'est comme ces personnes qui ont été guéries après avoir renoncé à toute guérison. Comme ces enfants qui se convertissent quand les parents n'y croient plus. Comme cette proposition de travail qui change tout du jour au lendemain, qu'on n'avait pas vu venir. C'est parce qu'avec Dieu, quand tout semble fini, tout n'est pas fini. Alors il faut bien qu'on se comprenne, mes amis. Je ne suis pas en train de vous promettre la lune. Il n'y a rien à marchander ici. Je suis simplement en train de dire qu'avec Dieu, on ne peut jamais dire que les jeux sont faits. Une surprise est toujours possible. Et si c'est une surprise, c'est justement parce que nous ne l'attendons pas. Avant de finir, une dernière remarque. On relève souvent la différence entre Marie et Zacharie. Marie croit ce que l'ange lui dit. Elle accepte d'être la servante du Seigneur dans un rôle qui l'expose à la honte. Quel courage chez cette femme. Pour Zacharie, la honte va disparaître. Mais il ne croit pas ce que Dieu lui annonce. Il croit qu'il a la berlue. Il se méfie des manifestations étranges dans le temple. Mais Marie, elle est jeune. Et Zacharie, il a la cinquantaine. Ses amis lui ont assuré qu'il priait, que s'il priait, il aurait un fils. Ses collègues lui ont dit que s'il offrait un bouc, il aurait un fils. Un lévite au temple lui a dit que s'il se repentait, il aurait un fils. L'espoir de Zacharie a été relancé tant de fois, et l'espoir, Zacharie, n'en a plus. Sur ce plan-là, c'est bien plus dur pour lui que pour Marie. Et là, j'apprends quelque chose. C'est qu'il y a dans nos vies des déceptions qui laissent des traces profondes. Est-ce que c'est le cas de certains d'entre vous ? Avec le temps, des fois, on en guérit de ces déceptions profondes. Mais des fois, la blessure se réveille dans nos vieux jours. Des fois, nous la portons jusqu'à la tombe. Alors mon pauvre Zacharie, Moi, je ne te juge pas. Et même, je te comprends. Et je comprends, à travers toi, que Dieu n'est pas limité par nos déceptions. La tienne, elle t'a pas empêché de vivre pour Dieu de façon irréprochable. Et surtout, elle n'a pas empêché Dieu d'agir dans ta vie et à travers toi dans la vie de tout un peuple et du monde entier. Ton fils Jean, que nous appelons Jean-Baptiste, sera le précurseur du Messie, le nouvel Élie, qui annonce la gloire du Seigneur. C'est ainsi qu'Élisabeth va devenir enceinte. Elle doit attendre seulement 9 mois encore avant d'accoucher. La promesse mûrit encore. Et le temps lui-même est sur le point d'accoucher. L'histoire de l'humanité est dans un terme. Dieu va se manifester. Depuis la création du monde, on attendait celui qui, né d'une femme, un jour écraserait la tête du serpent, renverserait l'ordre des choses, pourri jusqu'à la moelle depuis la chute, pour offrir la rédemption. Quelle attente ! Relancée par les promesses faites à Abraham, relancée par les lois de Moïse, relancée par David, relancée par les prophètes. Et finalement, venu à son terme du temps de Zacharie et d'Élisabeth, du temps de Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. L'apôtre Paul dit aux Galates, « Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. » Et c'est ça. L'histoire de Noël. Comment gérons-nous les temps d'attente? Comment gérons-nous les temps de déception? Comment allons-nous gérer ce Noël compliqué à tellement d'égards? En négligeant le présent? En étant dans le repli, dans la crainte, dans le jugement, dans la critique continuelle? Zacharie et Élisabeth n'ont pas fait comme ça en gérant l'attente. Ils ont vécu pour Dieu ici et maintenant. L'intervention surprise de Dieu, le retour du roi même, c'est peut-être pour bientôt. Il y a des promesses embryonnaires qui aboutiront. Mais aujourd'hui, au milieu des déceptions et des attentes, je veux vivre pour Dieu. Et je veux être juste à ses yeux. Qu'il nous y aide. Je vous invite à quelques secondes de réflexion personnelle, et puis l'équipe musicale nous conduira encore dans un chant.
Je lirai un texte qui s'intitule « Il vient ». Jouez au bois, résonnez musette, que retentissent les tambourins devant le Seigneur qui vient. Il est déjà venu, certes, au temps du roi Hérode. Son passage dans nos vies fut une esquisse, un trait de lumière. Depuis, les ténèbres ne sont plus ténèbres. Son jour n'a pas de nuit. Il viendra de nouveau, il l'a promis, à l'heure qu'il fixera lui-même. Il essuiera toutes les larmes, il mettra fin à la souffrance, à la violence, à l'injustice. Le bonheur sera pour tous et toutes. Le savoir, l'attendre, guetter, espérer et préparer sa venue est source de notre joie, objet de veille, de jeûne et de prière. Revêt tes habits les plus beaux, mets-toi le cœur en fête. Sois prêt, sois prête, le voici qui vient.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais un peu comme un cheveu sur la soupe, les annonces. Donc mardi 21 à 19h15, nous avons la dernière rencontre du conseil de l'année. À 20h15, c'est la réunion de prière avec la présence de Joshua Porter. Ensuite, vendredi 24, il y a la veillée au CEPOM à 23h. Et puis, le CTT partira en camp le 26, sauf erreur. Et puis, pour ceux qui ont des denrées, vous avez acheté des denrées pour le CTT, vous pouvez les mettre dans un carton qui se trouve en bas dans la salle du CTT ou qui sera peut-être à l'extérieur, juste devant la porte. Donc, vous pouvez mettre dedans ce que vous avez acheté. Bien sûr, c'est mettre et pas reprendre pour ceux qui passent devant. Il y a encore des petits tickets, si vous voulez, d'ici mercredi. Vous pouvez les prendre. Alors, il y a des choses, il y a des kilos de mayonnaise. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'acheter des kilos, mais c'est justement original d'essayer. J'ai vu qu'il y avait encore des pâtes, du riz pour des sushis. Je pense qu'ils vont se faire des bons repas là-bas en haut. Il y a aussi du jus d'orange. Donc, n'hésitez pas, c'est le flip chart qui se trouve dans le foyer. Et puis, donc, d'ici mercredi, à déposer en bas dans la salle du CTT, dans le carton ou à l'entrée. Ensuite, les actions de Noël. Donc, je vous ai déjà parlé la semaine passée, c'est les actions de Noël de la FRAE, avec deux sujets, un pour les soins infirmiers. Voilà, il est affiché. Donc, une école de soins infirmiers et puis une autre qui est principalement pour un nouveau véhicule qui permet de déplacer notamment des chrétiens pour les cultes, mais aussi pour tout ce qui est des problèmes médicaux. Donc, c'est des actions que la FRAE met en place chaque année. Et puis, vous trouverez à la sortie quelques petits bulletins qui expliquent un petit peu les sujets. Et puis, avec des bulletins de versement, si vous désirez y participer. Ensuite, dimanche 26, culte à 10h, avec, vous l'avez peut-être vu, les dernières mesures du Conseil fédéral qui impose cette fois-ci la 2G. Alors, ils sont un peu en retard sur la 5G, mais on y arrive petit à petit. Donc, bien sûr, ça veut dire vacciné ou guéri. Voilà, on fait avec. Hélas, les temps ne sont plus ce qu'ils ont été. Et puis, dernier point, après le culte, vous avez un jus de pomme chaud. Vous savez où le trouver, hein? Vous vous souvenez, en sortant, en passant devant l'armoire, enfin la petite étagère des dons et offrandes, vous passez à droite et c'est à l'extérieur, pour ceux qui n'auraient pas suivi la semaine dernière. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël. Oui, Paul Robert ?
Juste une dernière petite information que je vous dois. Nous avons vécu il y a quelques dimanches un culte pour l'Église persécutée, pour nos frères et sœurs persécutés. Nous avons proposé de faire une offrande spéciale en dehors pour nos frères et sœurs persécutés. Et cette offrande a eu lieu et nous avons récolté un peu plus de 600 francs qui ont été répartis en différents lieux. On vous doit quand même cela. Donc, Porte Ouverte, l'association Porte Ouverte a reçu une grande part de cet argent pour elle qui vient en aide à nos frères et sœurs persécutés dans le monde, aux églises dans le monde. Une autre partie est partie à un couple persécuté au Laos qui vraiment qui a été signalé par Sylvain. Ce couple a été chassé de son village, n'avait plus rien, même plus de quoi se payer un bout de terrain et un bout de baraque. Et on a pu donner une partie de cet argent pour ça. Et une troisième partie partira aux Indes dans une œuvre que Noémie connaît, nous a proposée aussi au niveau de ces gens qui sont persécutés dans ce pays-là. Voilà, donc, simplement, je vous devais quand même de vous donner le résultat et vous dire ce qui s'est passé par rapport à cette offrande. Je vous remercie déjà de votre générosité et continuons à le faire avec le Laos dont on a entendu parler. Merci.
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et un dernier chant. C'est pas grave. Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu contre nous. Pas Dieu en dehors de nous, pas Dieu apathique envers nous, non, Dieu pour nous, Dieu l'un de nous, Dieu empathique envers nous, Dieu avec nous. Voici Noël, et nous terminons avec ce chant tous ensemble.